Ceci conclut la deuxième session de la conférence. Nous allons attaquer donc maintenant la troisième session qui aborde la sécurité des matériels et logiciels. Je vais demander donc à Benoît Poulot-Cazajous d'intervenir. Ah voilà. Oui. Alors, qui se rejoignent. Donc Benoît a débuté sa carrière chez Chorus System, un éditeur français d'un OS temps réel. Depuis, il a rejoint Bertin, IT, pour y travailler sur les problèmes de virtualisation d'OS et d'évaluation. Voilà.
Bonsoir à tous. Il est presque 17h, donc c'est presque le soir. Benoît Poulot-Cazajous, c'est moi. Je vais vous parler de ce qu'on a fait dans Xen pour le sécuriser. Comment ça marche ? Voilà. Donc, au programme des hostilités, je vais vous parler un petit peu de ce que Bertin a été fait. Ensuite, on va avoir une présentation courte sur Xen. Je vais aborder uniquement les notions qui sont nécessaires pour comprendre ce dont on parlera par la suite. Et ensuite, on étudiera les améliorations qu'on a apportées dans Xen. Donc, il y en a à trois niveaux, dans Xen Store, dans Argo, et un module mémoire de sécurisation mémoire qu'on appelle le NSM. Voilà. Donc, je fais partie d'un groupe petit groupe de cybersécurité à l'intérieur de Bertin IT. Bertin IT est une vieille start-up française qui fait également partie du groupe CNIM, qui est un instrumentier français de taille intermédiaire, spécialisé dans la gestion de l'énergie. Donc, nous avons commencé à travailler sur des systèmes utilisant la virtualisation de type Xen depuis 15 ans, dans le cadre d'un projet qu'on a mené avec la DGA et avec l'ANSSI, qui s'appelle Synapse, dont vous avez peut-être entendu parler. Et depuis, on utilise Xen dans les systèmes qu'on produit. Donc, il y a deux photos de ces systèmes. On a un système Crossing, qui est une passerelle d'interconnexion entre deux réseaux de niveaux différents. Une passerelle d'échange de fichiers. Ça, c'est notre produit. Le projet, c'est un projet qu'on mène avec DGAMI, qui est le projet CHESS, qui est la création ou la définition d'un hyperviseur sécurisé pour les systèmes embarqués. Voilà, donc ces deux systèmes, ce sont deux systèmes qui utilisent intensément Xen, donc on avait intérêt à faire en sorte que ces systèmes soient le plus sûrs possible. Donc là, cinq petits slides sur Xen. C'est une conférence sur la virtualisation, on a très peu parlé de Xen, donc Xen est toujours vivant. C'est un hyperviseur open source qui a été publié pour la première fois en 2003, qui tourne dans des serveurs, qui tourne sur des configurations embarquées et qui est en train d'essayer de faire une percée dans le monde de l'automobile. On en a déjà parlé dans les conférences précédentes. En tant qu'hyperviseur, c'est un système qui permet de faire tourner des machines virtuelles ou domaines. J'emploierai les deux termes de manière symétrique. Parmi ces machines virtuelles, il y a une machine virtuelle qui a plus d'importance que les autres, c'est le DOM 0. Le DOM 0 est un domaine privilégié qui a pour responsabilité, typiquement, de construire les autres machines virtuelles, d'héberger les systèmes qui permettent à Xen de fonctionner, tels que la Xen Store, dont je reparlerai plein de fois, et de piloter les périphériques. Quand on parle de DOM 0, on parle souvent de désagrégation du DOM 0. La désagrégation du DOM 0, c'est prendre tout ce qu'il y a dans le DOM 0 et le mettre ailleurs pour diminuer la taille du DOM 0, pour augmenter la sécurité des systèmes. Donc, les exemples qu'on a, c'est... il y a différentes initiatives qui vont tendre à converger pour avoir un système ayant des DOM 0 les plus petits possibles. Donc, on a sur ARM des configurations sans DOM 0. On a également la possibilité d'avoir la Xen Store dans une VM. Et on a dans Xen la possibilité d'avoir des pilotes de périphériques dans des VM. Donc ces trois directions sont pour l'instant en train de converger pour avoir des systèmes qui ont des DOM 0 les plus petits possibles. Si on compare à ça à la situation avec AVM, on est beaucoup plus petit. Les autres VM s'appellent des DOMU. Voilà. Alors, On va regarder les mécanismes de base, il y en a trois. Ensuite, il y a les mécanismes qui sont plus évolués, qui sont basés sur ces mécanismes de base. Le premier mécanisme de base, c'est celui qui structure les échanges de mémoire entre les différentes VM. Dans Xen, quand deux VM communiquent, elles vont le faire toujours, entre guillemets toujours, par création de zones de mémoire partagée. Une zone de mémoire partagée entre deux VM va être créée lorsqu'une VM mappera des pages d'une autre VM, mais cette dernière aura au préalable autorisé la première VM à la mapper ses pages. Donc ce mécanisme de grand TBO permet à une VM de dire « Voilà une liste de pages, j'autorise les autres VM à mapper ces pages. » En dehors de ce mécanisme, il n'y a pas d'échange de pages. Le DOM 0, lorsqu'il crée des domaines, évidemment, a le droit de mapper des pages des domaines qui ne sont pas encore construits, donc pas encore de grand table. Alors, comme je l'ai dit, les communications entre VM se font à partir de mémoire partagée. Le mécanisme suivant, qui est le mécanisme des event channels, permet à une VM de dire à une autre VM, tiens, regarde dans les mémoires partagées qu'on a ensemble s'il y a des choses qui ont changé. Très simple. Le troisième mécanisme, c'est XSM. C'est un mécanisme qui est comparable à ce que fait LSM plus SE Linux sur Linux. Donc c'est un mécanisme qui permet de dire finement ce qu'une VM va pouvoir faire en termes d'interaction avec les autres VM ou en termes d'hypercall. Petit gag, Xen Security module S, mais XSM, il n'y a qu'un seul module. Ils avaient prévu la place. Voilà, donc c'est un mécanisme qui est aussi sympathique que SE Linux. Il est de bas niveau, il est verbeux. Il est difficile à utiliser, il est facile de faire des bugs, difficile de les détecter, j'aime pas trop. Au-dessus de ça, on a deux mécanismes de plus haut niveau, dont on parlera plus tard, qui sont Xen Store et Ergo. Xen Store est un mécanisme de base de données partagée entre les différentes VM qui leur permet d'interagir. On peut voir ça comme un système de fichiers partagé. C'est plutôt destiné à des échanges d'informations de configuration. Typiquement, on va avoir dans la Xen Store les VM qui vont échanger des informations sur les tables qu'elles veulent partager ou sur le numéro d'event channel qu'elles veulent utiliser. C'est un problème de poule d'œuf. Deuxième mécanisme intéressant, c'est Argo. Argo est un mécanisme de communication entre VM qui est censé être fiable, unidirectionnel, sécurisé et rapide. C'est quelque chose qui est arrivé dans Xen au début de l'année et dont on va reparler parce que on s'en sert. Ça n'utilise pas les grandes tables. Dernier point qui est intéressant dans Xen, je ne sais pas si je m'en sers après, pas vraiment. Dans Xen, on a la possibilité de découper les pilotes en deux parties. Une partie qui tourne dans une VM qui va accéder vraiment au matériel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un back-end. Et d'avoir des front-end, des clients, qui tournent dans d'autres VM. Ce mécanisme permet d'avoir, de manière très simple, de petites VM qui gèrent des pilotes, qui gèrent des périphériques. Donc c'est quelque chose qui est quand même de grande valeur. Tout ça se base sur les grands tables, sur les event channels. Voilà, donc là il y a un petit schéma qui essaie de résumer tout ce dont on a parlé. On a en bas l'hypervisor Xen, on a trois VM qui donnent l'impression d'accéder à des périphériques, on a le DOM 0 avec au-dessus une VM Xen Store, on a les event channels, on a politique XSM, on a deux couples front-end back-end pour accéder à un service de disque, et on a des grandes tables dans les VM où c'est intéressant. Donc dans les travaux dont je vais vous parler maintenant, nous sommes donnés plusieurs objectifs de sécurité. Le premier objectif, c'est évidemment de ne pas faire de modifications dans Xen qui cassent le système. Donc ça, bien évidemment, c'est un objectif de sécurité qui est partagé par toute la communauté open source. En revanche, le deuxième qu'on s'est donné est plus difficile à faire passer. C'est celui de dire que si deux VM ont été compromises, il ne faut pas qu'elles arrivent à communiquer entre elles. La communauté open source n'est pas encore prête pour ce genre de choses. Troisième objectif, celui d'assurer que le confinement en mémoire entre différentes VM est de bonne qualité. En effet, s'il est cassé, si une VM peut mapper la page de n'importe qui, la sécurité du système n'est plus garantie. Donc ces trois objectifs, on a tenté de les atteindre en faisant l'hypothèse que le DOM 0 et la Xen Store étaient de confiance, parce que sinon rien ne marche, et que toutes les autres VM pouvaient être hostiles. Donc maintenant, ce qu'on a fait. Alors, rappel, donc, la Xen Store, c'est une base de données qui ressemble à un file system qui permet à des VM de poster des informations pour que d'autres puissent les récupérer. Le problème, c'est que les permissions des nœuds dans la Xen Store sont spécifiées par la VM propriétaire du nœud. Donc ça permet à une VM de créer une zone d'échange public dans laquelle elle va pouvoir mettre des secrets. Donc là, on a un petit exemple trivial où une première VM, la VM 3, crée cette espèce de forum, y met un secret qui est récupéré trivialement par la deuxième VM. Donc c'est très simple. Et dans les configurations, on a envie de contrôler l'essence de communication, ça ne marche pas. Donc notre solution, en fait, est très très simple. Elle a consisté à dire que la Xen Store était de base utilisée pour échanger des informations de configuration pour des VM qui avaient besoin de communiquer entre elles, et que donc on utilise l'utilisation de la Xen Store pour lire les nœuds d'une VM que par une VM qui est autorisée à communiquer avec la première. Donc pour savoir si c'est le cas, on interroge la politique XSM dans la VM qui fait Xen Store. Et si c'est bon, on autorise le transfert, sinon, non. Argo. Donc, dans nos systèmes, on a un certain nombre de VM qui communiquent. On a besoin d'avoir des communications unidirectionnelles qui soient à la fois rapides et fiables, c'est-à-dire qu'on ne veut pas perdre de paquets. Pour ce faire, dans les systèmes Xen, d'habitude, les solutions qui viennent naturellement à l'esprit, c'est de faire de l'Ethernet virtuel ou d'utiliser la libvchain qui a été poussée par Invisible Things. Le problème, c'est que ces mécanismes imposent d'avoir des pages qui sont mappées en read-write à un moment donné dans les deux VM. Donc ça leur permet de communiquer. Et il n'y a pas moyen de corriger ce problème, c'est un problème lié à l'architecture de ces composants. Donc, ces solutions de communication entre VM ne nous conviennent pas. Et on a eu la surprise de découvrir l'apparition d'Argo au début d'année. Donc Argo, ça a été créé pour Citrix Xen Client. C'est utilisé sous diverses formes dans des systèmes en production. Il n'y a pas de mémoire partagée entre l'émetteur et le récepteur, et les copies sont faites par Xen. Donc on s'est dit, tiens, Xen, un petit module qui nous semble intéressant, on va regarder s'il correspond bien à ce qu'on veut. Après analyse du code, on a découvert que le code d'Argo était bien écrit, bien documenté, bien modulaire, qu'il ne pouvait pas être utilisé pour casser le système. Par contre, donc, on s'est rendu compte que son API ruisselait de canaux cachés. Donc on a entrepris de les corriger. Alors voilà, donc là sur ce slide, il y a les quatre appels de l'API d'Argo. Les deux premiers permettent d'enregistrer ou de désenregistrer des canaux de communication. Ça permet à une VM hôte de tricher en enregistrant et désenregistrant des canaux et donc de faire descendre de l'information à une VM basse. Donc on a décidé que c'était une mauvaise API, on l'a supprimée et on fait toutes les allocations, toutes les initialisations statiquement. Troisième API, c'est une API qui permet à un domaine d'obtenir des informations sur tous les canaux Argo dans la machine. Évidemment, ça permet d'avoir des canaux cachés descendants, donc on l'a supprimé aussi. Dernière API, c'est une API qui permet d'envoyer des données. Donc celle-là, on l'a gardée. On aime bien enlever du code pour enlever des problèmes de sécurité, mais il faut bien garder un petit peu de fonctionnalité. Donc le problème avec cette API, c'est qu'elle retourne un échec quand le récepteur est plein. Le récepteur peut déclarer qu'il est plein de plusieurs manières. Première manière est de tricher en faisant semblant d'oublier des données. Dans Argo, c'est fait comme ça, on peut oublier des données. Donc ça, on a corrigé le problème en empêchant un domaine d'oublier des données. Et le deuxième problème, c'est que un domaine peut être saturé simplement parce qu'il ne lit pas les données assez vite. Alors, la solution à ce problème-là est toute simple. On a transformé cet appel pour qu'il retourne toujours une valeur, qui est la transmission a été effectivement bien réalisée. Donc ça veut dire que l'appel d'envoi va toujours réussir, mais il peut prendre du temps, le temps que le récepteur se débloque. Donc en faisant ça, on a transformé un canal caché de stockage, d'une certaine manière, un canal caché temporaire, qu'il va falloir résoudre. Donc c'est un problème classique. C'est un problème qu'on a quand on va avoir des communications qui sont à la fois rapides, fiables et unidirectionnelles. C'est que si le récepteur va moins vite que l'émetteur, soit il faut qu'on ait des buffers de taille infinie, soit il faut qu'on perde des données, on ne veut pas perdre de données, soit il faut accélérer le récepteur, difficile à faire, soit il faut ralentir l'émetteur. Voilà. Bah. Si une action du récepteur permet d'être détectée par le récepteur, un ralentissement, c'est un canal caché. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce slide, il manque une étape. Notre approche a été la suivante. D'abord, d'évaluer la bande passante d'un canal, de ce type de canal. Ensuite, de s'assurer que, à runtime, cette bande passante définie, calculée, de manière spéculative, on va dire, n'excède pas une limite qu'on aura spécifiée avant. Je ne parlerai pas du problème de comment spécifier cette bande passante, c'est pour peut-être une prochaine session. Donc, le récepteur contrôle quand le canal est plein. Donc on suppose qu'il y a une VM qui envoie des données, une des deux VM qui est corrompue, elle envoie des données, le récepteur évite de les recevoir, à ce moment-là le canal est plein, et la deuxième VM, la réceptrice, peut, en ouvrant ou en fermant le canal, envoyer des données à la première. Donc, tout ce qu'on a maintenant, la seule chose qu'on ait besoin de faire, je suis désolé, le slide d'après va résumer quelque chose qu'il faudrait des heures pour expliquer, donc ça va être un peu tassé. Le problème, c'est d'évaluer la bande passante d'un canal qu'on obtiendrait comme ça, et s'assurer qu'on reste en dessous. Voilà. Alors, ce qu'il faut, il faut réaliser que la bande passante de ce canal dépend de la précision du timer. Si on a un timer qui a une précision infinie, les dates auront un nombre infini de chiffres, ce qui veut dire que le timer permettra d'avoir un canal caché de bande passante infinie. On a envie d'avoir une bande passante un peu plus faible. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on diminue la précision des changements d'état du canal. Il faut voir que le canal envoie un signal en changeant d'état, c'est-à-dire le buffer est plein, il passe à vide, et où il se remplit. C'est là que le signal se fait et qu'il descend. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la taille de le nombre de bits significatifs, en quelque sorte, de ces intervalles. Maintenant, donc du coup, ces intervalles, on en a moins, ils sont en nombre fini, c'est une quantification du temps, on va dire. Donc on peut les considérer comme des symboles discrets. Ces symboles discrets vont avoir une probabilité qu'on évalue à runtime. Et la théorie de l'information de Shannon nous donne à ce moment-là une formule qui permet de connaître la bande passante d'un tel canal. Donc voilà la formule, elle est là. Pour ceux qui n'ont pas calculé de log depuis longtemps, on peut prendre un petit exemple, c'est considérer un canal où on a des octets qui aléatoires et qui probables qui passent. Donc qui ont une probabilité de 1 sur 256. Quand on calcule le log en base de 1 sur 256, ça nous fait moins 8. Quand on fait la somme sur tous les symboles possibles, ça nous fait donc une valeur de h. La valeur de h pour ce canal, c'est 8. Donc on a un canal qui fait passer 8 bits par symbole. Ça marche. Donc cette quantité d'information, cette entropie correspond à un débit en bits par symbole. Ces symboles ont un débit qui est du temps, qu'on a discrétisé le temps. Donc il est facile de convertir cette bande passante en une bande passante en bits par seconde. Et l'affaire est dans le sac. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au moment où le canal change d'état, on va évaluer spéculativement la valeur de H. Si elle est inférieure à la valeur qu'on a fixée, la valeur maximale, on laisse passer, c'est-à-dire qu'on bloque ou on débloque. Sinon, on bloque, on attend que le temps passe et que cette valeur de H diminue pour permettre le changement d'état du canal qui est bloqué ou débloqué, qui fait le canal descendant. Le papier a plus de détails, je suis désolé, c'est vraiment trop court pour en parler plus en détail. Alors, troisième amélioration, c'est une amélioration de sécurité qui se base sur le fait que toutes les configurations Xen qu'on utilisent un mécanisme de double translation. Donc, c'est ces mécanismes qu'on appelle le SLAT, Second Layer Address Translation, ces mécanismes sont disponibles à la fois sur Intel et sur ARM dans les versions récentes des processeurs. Ça s'appelle EPT, MPT, Stage 2 MMU, Nested Pagings, ou P2M. P2M comme Physical to Machine. J'emploierai plutôt ce terme. Donc, ce deuxième arbre de translation vient en complément du premier arbre MMU géré par chaque VM. SLAT est géré par l'hyperviseur. Et les VM n'ont pas conscience de ce deuxième arbre de translation. Pour qu'on puisse avoir des pilotes dans les VM, il faut que les périphériques également soient soumis à ce deuxième arbre de translation. Pour que les adresses envoyées par les périphériques et les adresses vues par les VM soient compatibles. Donc il se trouve que dans Xen, en fait, quand un périphérique est dans une VM, il utilise le même arbre de translation, le périphérique et la VM. Donc ils sont synchronisés. Donc, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ces arbres étaient bien gérés dans Xen, de manière à assurer un confinement dans lequel on puisse avoir confiance. Comment est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, c'est un problème difficile, on est joueur, on va utiliser les méthodes formelles. Comme on est plus spécialiste dans les hyperviseurs que dans les méthodes formelles, on voulait que le résultat du travail soit du code qui tourne dans Xen. Donc les preuves qu'on pourrait tirer de ces méthodes formelles cassent si le code sur lequel elles se basent se modifie. Donc on soit obligé de modifier les preuves en suivant Xen. Quelque chose qu'on voulait aussi, c'était que les gens qui soient capables de modifier l'hyperviseur soient également capables d'apporter leur contribution à ces méthodes formelles. Alors comment on l'a fait ? On l'a fait en utilisant FramAC. Donc FramAC est un framework d'analyse de binaires qui a été développé par le CEALIST. Je m'attendais à ce qu'on en parle il y a une heure. Voilà, c'est disponible sous la LGPL. Et ça permet, grâce à l'utilisation de Griffon, de prouver des propriétés de programme. Donc, il y a un langage qui s'appelle Haskell, je ne sais pas si je le prononce bien, qui permet d'annoter les programmes C et C++ en spécifiant le comportement qu'on attend d'eux. Les plugins de FramAC vont permettre de prouver que les spécifications correspondent au code. Voilà. Donc, on a créé un module qu'on a appelé le NSM, ce qui n'est pas très original, qui est un module qui est invoqué à chaque fois que Xen veut modifier les tables P2M. Ce module MSM maintient une vision, un modèle qui lui est une simplification de ce qui est fait par Xen dans les tables P2M. Et ce module, cette représentation permet d'exprimer des propriétés de sécurité sur ce que fait Xen sur les tables B2M. Par exemple, ce qu'on peut exprimer, c'est qu'un domaine et les périphériques qu'il gère utilisent le même arbre B2M. Également, on peut exprimer la propriété qu'une table de page utilisée dans l'arbre B2M ne va pas être mappée par lui-même. Sinon, évidemment, le système pourrait être cassé. Une autre propriété qui est intéressante, c'est de s'assurer qu'un domaine ne va pas pouvoir mapper une page qui ne lui appartient pas, sauf si cette page a été autorisée par le mécanisme des grandes tables. Et, on a rajouté ça, si le sens de communication de passage de page n'a pas été au préalablement défini. Je vous l'ai dit, je n'ai pas confiance en XSM. Voilà, donc SQL permet d'exprimer les annotations du code du MSM, ses propriétés de sécurité. FramAC prouve que le code du MSM et ses vérifications de sécurité marchent. Donc on considère qu'on a un module qui, entre guillemets, apporte un petit peu de confiance sur le comportement de Xen. Donc, retour d'expérience sur FramAC. Donc on a défini ce module MSM, il fait 900 lignes de code, la moitié sont utilisées par des annotations. Lorsqu'on lance FramAC dessus, il y a 777 propriétés qui sont générées dynamiquement, et ça prend une minute de temps CPU pour être prouvé. Les problèmes qu'on a eu avec FramAC. Donc le premier, c'est un problème de modularité. C'est que quand on a une fonction qui est utilisée dans un module, une fonction qui fait partie d'un module, sa spécification va vouloir définir un comportement de manière plus précise que dans son interface. Ça, on a essayé de bien l'exprimer dans FramAC, on a échoué. On a quelque chose qui marche, mais on n'est pas très content du résultat. Le deuxième problème, et c'est le problème majeur selon moi, c'est que FramAC n'explique pas pourquoi il échoue de faire des preuves. Quand une preuve échoue, on ne sait pas s'il faut donner plus de temps à FramAC pour réussir cette preuve, si la preuve qu'on essaie de faire est fausse, ou s'il faut utiliser un autre prouveur. FramAC ne prouve que lui-même que ce qui est élémentaire, sinon il appelle des prouveurs externes. Certaines propriétés ne sont pas prouvables par certains prouveurs. Et il faut tâtonner pour le déterminer. Donc du coup, quand on a une propriété qui n'est pas prouvée par FramAC, on ne sait pas si elle est fausse, s'il faut plus de temps, s'il faut un autre prouveur, ou s'il faut changer un petit peu le code pour que ça passe. Donc de nombreuses heures ont été passées là-dedans. Ceci dit, malgré tout, l'utilisation de FramAC est relativement facile. C'est facile à installer. Sur des petits exemples, on y arrive vite. Je trouve que la courbe d'apprentissage est douce. Elle est longue, mais elle est douce. Il y a une bonne documentation. Il y a des exemples sur le web qui marchent bien. Il y a une communauté qui est sympathique. Voilà. Donc, mon encouragement serait, pour ceux qui ne le font pas déjà, d'utiliser FramAC pour leur code C qui fait de la sécurité. Donc, petite conclusion, les hyperviseurs sécurisés permettent de construire des systèmes sûrs à partir de composants qui le sont moins. La sécurité des hyperviseurs open source, du software open source en général, peut être vérifiée et améliorée, et les méthodes formelles permettent de faire ça d'une manière qui est utilisable pour les hyperviseurs. Donc on a un point de rencontre possible entre les communautés des hyperviseurs et des communautés des méthodes formelles. Et je pense que Xen est un endroit où ces deux communautés peuvent se rencontrer, avec un peu d'aide. Je vous remercie.
Merci Benoît. On va prendre des questions dans la salle.
Bonjour Benoît, on se connaît. Hein.
Bonjour Louis.
Okay. Est-ce que dans les modifications de sécurisation de Xen, il y a des choses qui sont renversées à la communauté open source ?
Merci pour cette question. C'est une problématique à laquelle on est en train de réfléchir. Donc l'idée est évidemment de faire profiter la communauté de tout ce qu'on a fait, mais peut-être qu'il faut le mettre en forme avant de pouvoir le remonter. Donc oui, la réponse est oui. Pas tout de suite, mais oui.
Merci Benoît. Donc, j'invite à approcher de Benoît pour approfondir le sujet qu'il vient d'exposer.